Nous voulons un petit point d'organisation. On peut se mettre peut-être en rond, sinon on va se tourner le dos. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faudrait, lorsque vous allez vous exprimer, pour que le texte, enfin que ce que je dis soit enregistré, il faut parler dans un des deux micros baladeurs qui circulent. Dans le deuxième, merci. Alors, je vais présenter les personnes qui vont intervenir dans cet atelier. Alors, Anne-Françoise Ten, d'Artisans du Monde, qui va se signaler en levant le bras très haut, voilà. Ensuite, Francis Morin, de l'association Equi. Enfin, je suppose que c'est une association, Equi. Véronique Lacombe, de Andine. Pascal Erard, du collectif de l'éthique sur l'étiquette, et moi-même, Philippe Canard, du collectif Engagement citoyen dans l'économie, et je vais animer l'atelier. Alors, on a juste un point à voir avant de commencer, c'est de savoir qui compose l'assistance, et de savoir si c'est plutôt des personnes qui sont dans des associations ou des entreprises du commerce équitable, ou des personnes qui travaillent dans une collectivité territoriale, soit à Paris ou ailleurs, élus ou dans les services. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui représentent une collectivité? Enfin, qui sont dans un service? Ouais, d'accord. La ville de Paris, peut-être? D'accord. Donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui représentent ou qui travaillent dans une collectivité? Non. Donc, l'assistance est composée de la majorité de personnes qui sont soit intéressées par le commerce équitable, soit qui travaillent ou qui sont impliquées, en tout cas. Voilà, on va faire cette hypothèse. Alors, pour notre atelier, on a pensé nous distribuer en deux moments. Un premier moment qui serait plutôt de parler du commerce équitable, c'est-à-dire ce que c'est ou ce que ça n'est pas, à partir d'exemples concrets. On ne va pas faire de théorie sur le commerce équitable, parce qu'on pourrait y passer toute la fin de journée, mais parler d'exemples concrets, ce que c'est que le commerce équitable. Donc les personnes de l'atelier vont faire une intervention et ensuite il y aura un échange entre nous. C'est le premier moment de l'atelier. Et le deuxième moment serait justement d'approfondir sur les questions de relations avec les collectivités territoriales. Sur deux points, le premier point serait l'achat public, c'est-à-dire qu'une collectivité, par définition, fait de l'achat public. Est-ce qu'elle peut s'orienter vers du commerce équitable? Comment? Le deuxième point, c'est les politiques d'appui à l'installation d'activités de commerce équitable dans les collectivités territoriales. Donc ce sera notre deuxième moment. Donc peut-être on peut commencer tout de suite sur le premier volet, sur ce que c'est que le commerce équitable, par des exemples concrets. Alors, je n'ai pas d'ordre d'intervention. Qui est-ce qui veut commencer là-dessus parmi nos animateurs? Pascal? Pascal Erard.
Au hasard. Donc, je vais te présenter en quelques mots. Oui, faut pas que vous soyez terrorisés. Je sais bien qu'on est assez impressionnant comme intervenant, mais... Oui. Voilà, maintenant que le cercle est resserré, je vais reprendre la parole. J'ai l'impression d'être à la SNCF dans une gare, là. Ça donne une certaine ambiance. Donc, le collectif de l'éthique sur l'étiquette, en quelques mots, a été créé en 1995. Il regroupe aujourd'hui une cinquantaine d'associations et de syndicats. Et en fait, à l'origine, se trouvent ce qu'on appelle des appels urgents, des alertes venant de syndicats et d'associations d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine, concernant des violations des droits de l'homme au travail, concernant des produits exportés vers le marché français, vers le marché européen. Donc ça peut porter sur des jouets, sur des vêtements, sur des chaussures de sport, et les violations des droits peuvent être violations des libertés syndicales, ça peut être des problèmes liés à des salaires insuffisants, inférieurs au minimum vital, ou à une durée du travail excessive. Alors, le collectif s'est constitué déjà pour sensibiliser les consommateurs concernant les conditions de production d'un certain nombre d'articles que j'ai évoqués, mais aussi d'agir sur les entreprises françaises ou internationales qui importent ou qui sous-traitent une partie de la production dans des pays où règnent des violations des droits sociaux, pour que ces entreprises, et on pense en particulier à la grande distribution, Carrefour, Auchan et autres, reconnaissent leurs responsabilités, commencent à vérifier les conditions de production d'un certain nombre de produits, et d'ici des problèmes sont constatés, poussent leurs fournisseurs à améliorer la situation. On n'est absolument pas pour une rupture ou pour un boycott. Et enfin, par rapport à elles-mêmes, qu'elles mènent des politiques d'achat qui permettent leurs fournisseurs de respecter les droits sociaux. Par exemple, payer convenablement les produits qu'ils achètent ou fixer des délais entre la commande et la livraison qui n'imposent pas des conditions de fabrication inacceptables pouvant atteindre 15-16 heures par jour, plusieurs jours d'affilée ou plusieurs semaines d'affilée, comme c'est le cas dans l'industrie du jouet. Donc voilà en gros l'objectif du collectif. Donc on fait de la sensibilisation, de la pression sur la grande distribution et on essaye de travailler avec elle pour des améliorations. Donc pour conclure sur la distinction entre notre démarche et la démarche de commerce équitable, donc là vous l'avez compris, nous on traite des filières telles qu'elles existent, on s'adresse aux acteurs classiques, la grande distribution, les grandes marques, leurs fournisseurs et sous-traitants.
Par exemple sur quels produits?
Des jouets. Alors par exemple on peut prendre effectivement des jouets, on cible la grande récré pour que dans ces filières d'approvisionnement, elles s'assurent que les conditions de fabrication sont de bonne qualité sociale. Et on fait référence aux droits de l'homme au travail définis par l'OIT. Pour le commerce équitable, donc, qui sera défini tout à l'heure, il s'agit plutôt, même s'il faut nuancer, de filières alternatives qui portent pas uniquement d'ailleurs sur les questions sociales, mais d'un côté, nous, on travaille sur les filières existantes, de l'autre, on va dire le commerce équitable est plutôt une filière alternative, même si avec Max Avelard, on trouve des ponts entre les deux. Donc je laisserai ensuite les acteurs du commerce équitable.
Un deuxième gros mot, alternatif.
Oui, et j'ai pas parlé de solidaire. Donc.
Très bien. Donc le jeu, c'est de faire tourner le micro sur une brève présentation de ce qu'est le commerce équitable, ou là, c'était le commerce éthique dont vient de parler Pascal, pour bien cadrer le sujet.
Donc Artisans du Monde a été le premier acteur en France à travailler sur le commerce équitable. On s'est créé en 1974 avec une idée simple, répondant aux appels des peuples qui avaient été lancés dans les années 60 lors des conférences des Nations Unies pour le commerce et le développement, où les peuples du tiers-monde demandaient du commerce et pas de l'aide. Donc en fait, on est dans une démarche, on ne va plus être dans un soutien à envoyer de l'argent, mais on va commercer, et on va commercer de manière juste. Alors pour nous aujourd'hui, c'est quoi le commerce équitable? Le commerce équitable a trois dimensions. Une dimension de développement, effectivement, on est dans un processus où des groupements sont en développement. Alors en ce qui nous concerne, dans notre pratique, c'est au sud, donc avec des producteurs en Asie, en Afrique, en Amérique latine. C'est une démarche aussi où l'on trouve une autre relation commerciale, une relation où l'on va s'engager sur la durée. Et je crois que quand on présente le commerce équitable, on a trop tendance à le réduire à la notion de prix juste. Alors déjà, balayer quelques idées reçues sur le prix juste. Quand on prend la question du cours du café, on voit bien qu'il a chuté au niveau du commerce conventionnel depuis des années. Et qu'est-ce que disent les producteurs du Sud? Ils disent, mais attention, le prix qui est fixé au niveau du commerce équitable, il faudrait peut-être le baisser. Parce que nous, producteurs de café, on se rend compte qu'on n'arrive plus suffisamment à vendre au prix du commerce équitable, parce qu'effectivement, le commerce traditionnel offre un prix beaucoup plus bas, donc finalement, c'est quand même un problème. Donc, surtout ne pas résumer la question du commerce équitable à la question du prix juste, mais surtout parler d'engagement durable. C'est-à-dire, il est hors de question d'acheter pendant un an à des producteurs en Inde ou à Madagascar, si pour l'année d'après, arrêter. C'est beaucoup plus important de s'engager sur la durée avec des producteurs. Donc c'est la deuxième dimension, une autre relation commerciale. Et la troisième dimension, c'est une dimension politique. Le commerce équitable, c'est pas qu'une histoire d'accès au marché. Le commerce équitable, c'est changer les relations, les mécanismes du commerce international. Je reviens sur mon histoire de café. Si aujourd'hui, au bout de 10 ans de vente de café, de 30 ans de vente de café, du commerce équitable, on est face à un prix qui a tellement chuté, eh bien, nous, organisation de commerce équitable, on n'a pas le droit de dire que c'est simplement la main invisible du marché qui va changer les choses. Il faut vraiment travailler pour que les mécanismes du commerce international changent, et donc on a besoin de régulation au niveau du commerce international. Pour terminer, présentation rapide d'Artisans du Monde. C'est une fédération, 130 associations locales à ce jour, réparties dans toute la France, et donc une fédération qui fait également partie de mouvements internationaux, le réseau européen des mouvements des magasins du monde, News, et puis également IFAT, qui regroupe à la fois des organisations de producteurs et des organisations du Nord, qui travaillent ensemble sur les critères du commerce équitable et qui ensemble mettent en place des processus d'auto-évaluation. On pourra y revenir.
D'accord, merci Anne-Françoise. Maintenant peut-être Francis ou Véronique. Francis Morin.
Ah ben, moi je... D'accord. Donc je représente ici l'association EQI, qui est une association locale dans la ville de Stains, en Seine-Saint-Denis, enfin sur le bassin de cette partie de la Seine-Saint-Denis, puisque nous travaillons aussi sur Aubervilliers. Notre positionnement, alors on brûle peut-être une étape, mais comme il vient d'être dit qu'il faut favoriser un engagement durable vis-à-vis des producteurs, nous avons fait le constat dans notre ville de banlieue que lorsque nous voulions acheter des produits du commerce équitable, il fallait aller soit à Paris, parce que les boutiques les plus proches étaient à Paris, soit à Carrefour, où là on trouverait quelques produits avec le label Max Savla. Ça ne nous satisfaisait pas, d'autant que nous avions remarqué en discutant avec les habitants que les communautés diverses qui peuplent les villes de banlieue sont très sensibles à la démarche, à l'aspect politique que représente la démarche de commerce équitable. Donc nous avons décidé depuis 2 ans de faire un travail de sensibilisation, d'explication, en passant toujours par la vente des produits, par l'activité de distribution, mais avec un projet qui est à terme d'ouvrir une boutique, restaurant de commerce équitable et de produits issus de l'agriculture biologique, mais respectant les mêmes critères que ceux du commerce équitable lorsque nous achetons des produits du Nord. Hein, parce que nous nous sommes rendus compte que nous avions tendance à exiger beaucoup les producteurs du Sud et pas autant des producteurs du Nord. Hein. Donc le projet est de passer d'une activité, je dirais, boutique sans mur que nous faisons aujourd'hui, qui nous permet de vendre ou des produits de Andine, qui va tout à l'heure expliquer ce qu'ils font, ou de Solidar Monde, qui est avec Artisans du Monde, d'ailleurs nous avons travaillé longtemps aussi avec une des boutiques en relais, pour passer aujourd'hui à une clientèle qui est devenue régulière, d'environ 100-200 personnes qui régulièrement nous commandent des produits, hein, pour ensuite, maintenant ils nous demandent quand ouvrirez-vous la boutique. Hein, l'idée était de créer d'abord la clientèle, et maintenant, il faut passer dans l'économie. Alors, je voudrais juste faire une remarque. Pour nous, le commerce équitable ne doit pas être une activité caritative de redistribution, de vente de charité, hein, mais la création de véritables filières est l'occasion de leur donner des débouchés durables, mais aussi de permettre à un commerce dans notre ville d'exister et de trouver les moyens de son fonctionnement, hein, de sa rentabilité. Hein, c'est-à-dire non pas de dégager des profits spéculatifs, mais de faire en sorte que les gens en vivent. Hein. Alors peut-être là, c'est une petite différence avec la tradition, hein, des boutiques d'Artisans du Monde, par exemple. Mais une image, hein, voilà. Bon, là, nous voulons entrer résolument dans l'économique et pas du tout dans une logique de distribution, de vente au bon cœur. Hein. Les gens qui nous achètent des produits les achètent sur la base de leur goût, de la qualité et du sens qu'il y a, mais n'achètent pas pour faire plaisir. Dans l'intitulé, il y a commerce solidaire. Alors, j'en profite un petit peu. Hein, le commerce solidaire, ce serait un peu les ventes, hein, au bénéfice ou les épiceries sociales ou les ventes que le Secours Populaire peut organiser, ou parfois pour aider un village en Afrique on fait venir des produits, on les vend de cette manière-là. Ça pourrait être de la solidarité sous une forme commerciale, hein. Pour nous, le commerce équitable doit vraiment s'éloigner de cela pour être vraiment dans une perspective politique de changement de l'organisation de l'économie. Parce que pour nous, la forme capitaliste n'est pas la plus aboutie des formes d'échange et de production. J'ai écouté M. Sautère tout à l'heure, je trouve qu'il était un petit peu, c'était un peu ce qu'il laissait penser. Je crois qu'on peut aller vers d'autres formes de développement économique, l'économie solidaire en étant le chapeau général, et le commerce équitable en étant un aspect dans le cadre de la mondialisation.
Merci. Véronique, donc Véronique Lacombe d'Andine, pour peut-être encore une nouvelle nuance sur les notions de commerce éthique, commerce équitable, commerce solidaire. Après, on fera une petite récapitulation.
C'est pas simple d'intervenir après, surtout en s'étant centré quand même sur la prise de notes, en souhaitant respecter ce que chacun disait. Alors, Andine, très très rapidement, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites précédemment. Ce qui a été dit montre aussi une évolution dans les processus depuis l'éthique sur l'étiquette, la démarche artisan du monde et une démarche un peu plus récente donc de développement du territoire. Alors Andine, où se situe-t-on ici? Déjà pour nous, le commerce équitable n'est pas une nouveauté. Commerce équitable a toujours existé. Depuis que les hommes existent, il y a eu des échanges des échanges économiques et commerciaux basés sur le respect de l'autre et le gagnant-gagnant. Juste après la guerre, je me souviens de mes grands-parents qui montaient des coopératives d'ouvriers et de paysans qui travaillaient sur les échanges équitables entre des prestations de services de plombiers ou de laboureurs ou autres et des sacs de patates et autres avec un échange économique et non pas du troc. Donc je crois que c'est quelque chose qui a toujours existé. Les premiers écrits sur ce qu'on appelle aujourd'hui le commerce équitable datent du 19e siècle. Donc pour moi et pour Andine, le commerce équitable a toujours existé dès lors que ça signifie équité dans les transactions économiques. Si on part de ça, on n'est plus dans le nord-sud ou le nord-nord ou autre, on est dans la transaction économique et comment introduire plus de respect, d'équité, de justice économique pour arriver à une plus grande justice sociale. Andine, ceci dit, a une histoire concrète. Il existe depuis 87 et l'idée, le concept a été construit en Colombie et nous, en France, on a répondu à une demande de producteurs colombiens qui souhaitaient sortir du caritatif, du don et de la subvention qui jugeaient déshonorant ou insultant et qui voulaient juste avoir suffisamment de ressources en vivant de leur travail. C'était des producteurs, des artisans, ils avaient un savoir-faire, c'était dans des bidonvilles à Bogota ou dans plusieurs régions de Colombie, et ils nous ont demandé, on a travaillé ensemble sur des engagements, une manière de travailler ensemble, un mode opératoire ou un cahier des charges, où chacun devait pouvoir vivre correctement de son travail. Les producteurs, nous ici, et les détaillants derrière, puisqu'on est importateur grossiste. Donc depuis 14 ans, on importe, on distribue des produits, on est importateur, on n'a jamais pu rentrer dans des structures internationales dont parlait par exemple l'artisan du monde, d'une part parce que au niveau international, les cotisations sont chères, et on a des comptes d'exploitation très limités parce qu'on préfinance les commandes, c'est-à-dire qu'on paie les producteurs à la commande, au moins 50% à la commande. On solde le préfinancement quand les produits sortent du pays et parfois il faut un mois, deux mois avant que les produits arrivent en France. Et en France, les clients nous paient un mois, deux mois, trois mois après avoir acheté les produits. Donc on sert de banquier. Et on a du mal à investir et à financer des cotisations, des choses comme ça au niveau international. Et au niveau européen, Il y a un réseau d'entreprises européennes qui est en train de se construire petit à petit, mais on est tous dans des précarités financières fortes, donc on a du mal à s'organiser, sachant que l'EFTA en France regroupe uniquement les importateurs affiliés à des fédérations de magasins comme Artisans du Monde ou Magasins du Monde en Suisse ou autre. Donc on n'a pas accès à l'AFTA, donc il faut qu'on s'organise un peu tout seul, quoi. Voilà, alors ce qui est important en résumé, c'est pour nous, c'est commerce équitable, c'est un processus de transformation de la société. C'est une filière, c'est de l'équité, plus d'équité sur une filière, c'est-à-dire du producteur au consommateur, en passant par les importateurs et tous les différents acteurs économiques. Et surtout, c'est une transparence complète sur chacune des étapes de la filière. Et notre engagement, nous devons pouvoir vous le prouver quand vous nous posez des questions. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens de faire certifier des choses par des organismes extérieurs. Il n'existe pas de label de commerce équitable. Il n'existe pas d'organismes extérieurs, et François Sten disait tout à l'heure qu'au niveau effectivement international il y a des recherches et on travaille, hein, mais quand on travaille il faut manger aussi, donc ça demande des besoins, ça nécessite des frais et des ressources pour avancer là-dessus. Et aujourd'hui il n'y a pas la transparence et la traçabilité, il n'y a pas grand chose qui existe, quoi.
Merci. Je vais poser une question pour faire l'avocat du diable. Qu'est-ce qui me garantit aujourd'hui, quand je lis sur un produit, soit de alimentaire ou de l'artisanat, que c'est du commerce équitable? Il y a quand même des labels qui existent, et des labels privés, enfin si je puis dire. Il y a des entreprises qui disent « je fais du commerce équitable », qui l'écrivent sur le paquet de chocolat ou sur un bibelot, n'importe quoi. Qu'est-ce qui me garantit, enfin comment je peux être sûr que lorsque j'achète cet article, c'est vraiment du commerce équitable, enfin... Ça fait partie de la famille du commerce équitable, puisqu'il n'y a pas de norme qui définit de façon absolue ce qu'est ou ce qu'est n'est pas le commerce équitable, mais il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de...
Non, moi je me situe... Les gens nous demandent, hein, puisque nous on distribue, hein, et on distribue des produits, je l'ai dit tout à l'heure, qui viennent nous de Solidarmonde ou de Andine. Et certains.
Concrètement, c'est quoi, Francis, comme produit?
Ce sont des produits alimentaires ou des objets artisanaux. Pour certains produits alimentaires, ils ont l'étiquette, le label privé Max Havelaar, ou bien ils ont la référence à Artisans du Monde ou la référence à Andine. Ou bien parfois ils ont le label AB quand ils sont bio. Hein. Donc, et après, il y a l'explication de l'origine qui nous est donnée par le grossiste, hein, et qui nous explique quel est son mode de vérification, qui en général par des correspondants locaux qui vérifient si le cahier des charges fixé par rapport au développement local, par rapport à l'organisation même de la production localement, par rapport à l'ensemble des critères sont respectés. Mais c'est vrai que cette forme de contrôle pour le moment est satisfaisante parce qu'on travaille avec un réseau et un nombre de... Je crois qu'Andine, c'est 200 filières. Hein. Bon, Solidarmonde, c'est hein, une centaine. Bon, c'est relativement limité et les deux organisations savent bien nous dire de quelle manière elles font ce chemin-là. Hein. Mais la question se posera et plus on sera nombreux à faire de la distribution, plus il faudra aller vers des garanties plus fortes apportées aux consommateurs, sinon le moindre flagrant délit de non-respect des règles éthiques qui sont écrites risquerait de compromettre l'ensemble de la démarche.
Très bien. Anne-François, sur le même sujet ?
Juste pour compléter aussi, de toute façon, quand on regarde par exemple le label privé Max Havelaar, on voit aujourd'hui, ils ont 9 produits qui sont labellisés, c'est-à-dire qu'on ne fait pas une labellisation de filière n'importe comment. Enfin, je veux dire, c'est complexe. Et comme disait tout à l'heure Véronique, tout ça, ça prend du temps, ça demande de l'argent. Donc la question qui se pose à nos organisations, c'est où est-ce qu'on met les priorités. Et je pense que une des réponses, c'est aussi de se dire bon, on est dans un système qui est encore à échelle relativement humaine. Donc, ce qui est important, c'est de donner une garantie aux consommateurs. Mais une des garanties sur lesquelles on peut travailler aussi, ben, c'est la garantie que nos organisations ici respectent également des critères. C'est pour ça qu'Artisans du Monde, on a par exemple des critères au sud, mais on a aussi des critères au nord. C'est-à-dire, le pendant de ce qu'on dit, une organisation doit être démocratique, mais on essaye aussi que ça se passe également en France. Ça ne veut pas dire que ça se passe toujours bien, hein. Je veux dire, comme tout groupe humain, on a nos problèmes. Mais c'est ça aussi qui nous permet de nous rendre compte que ce qu'on projette sur les producteurs du sud, ben, faut peut-être aussi qu'on balaye devant chez nous. Donc tous les ans, les groupes Artisans du Monde sont invités à faire une auto-évaluation de leurs critères pour voir s'ils respectent bien cette démarche d'organisation. Parce que au-delà d'une garantie sur le produit, ce qui est important pour nous, c'est de dire que le commerce équitable, c'est des gens. Et des gens, donc c'est des organisations. Donc c'est comment cette organisation peut dire oui, on se situe dans une démarche de commerce équitable parce qu'on n'est pas intéressé par une économie axée sur le profit pour le profit, mais qu'on se situe dans une démarche d'économie solidaire. Et question subsidiaire, l'économie solidaire, est-ce qu'elle va reproduire tous les mécanismes de contrôle, de garantie de l'économie traditionnelle? On voit bien ce qui s'est passé avec Enron, nous on n'a pas envie de faire pareil.
Enron équitable. Alors, je vais confier ce micro à la personne qui va poser une question. Puisque le principe c'est qu'il y a un débat entre nous, hein, sinon c'est pas intéressant. Hein.
Alors moi je représente une collectivité et moi j'ai découvert il y a quelques années le commerce équitable et j'avais pas bien compris comment ça marchait alors. Et maintenant je suis plus axée sur l'entreprise parce que comme vous disiez il faut que ça soit équitable mais aussi à mon avis les associations comme les vôtres sont ou Max Avelard reçoivent énormément de subventions, reçoivent des subventions, seraient plus pour informer sur la démarche, comme vous le faites sur l'étiquette, et favoriser la commercialisation par des vraies entreprises comme Andine, qui crée de l'emploi. Parce que l'économie solidaire, ça crée de l'emploi. C'est obligé de créer de l'emploi, à mon sens. Alors, c'était la réflexion. Alors, c'est vrai que... Par exemple, moi j'organise dans mon petit village du sud Seine-et-Marne, hein, depuis 2 années, un marché de commerce et sur la bio. Et je me retrouve avec des associations, parce que c'est beaucoup d'associations qui sont dans le commerce équitable, et des entreprises qui me refusent à venir parce que il y a une différence énorme de prix. Et donc c'est vrai que là, il y a quelque chose qui, moi en tous les cas personnellement, là je parle pas au nom de ma collectivité, mais personnellement, c'est que, par exemple, la première fois que j'avais invité Andine, en plus de faire déplacer des gens qui travaillent sur quelque chose de très très intéressant, qui viennent de la Plaine-Saint-Denis en Seine-et-Marne, qui se retrouvent en face d'associations avec les mêmes produits, effectivement ils faisaient la gueule. Excusez-moi ce terme argotique, mais alors... C'est vrai qu'on se trouve dans... Moi, je me trouve dans ça. Quand j'organise, on me dit, bah ouais, mais qu'est-ce que tu favorises? L'association? Parce que vous êtes le commerce équitable, toutes les associations. Les entreprises, on les connaît pas beaucoup au niveau national. Moi, je connais Candine, c'est tout. Parce que j'ai eu un super cours par Michel Besson, parce que je me suis fait engueuler. Bien, en tous les cas. Mais en tous les cas, ça a servi. Parce que, effectivement, maintenant, je prône, si on veut monter quelque chose, c'est une entreprise. Alors moi, je monte, j'ai une collectivité locale qui s'inscrit parfaitement dans l'économie sociale et solidaire, et je monte un restaurant d'insertion qui commercialisera des produits, et on s'en servira des produits du commerce équitable, et bien évidemment favoriser l'agriculture biologique. Et effectivement, avec Francis Morand, on a échangé déjà sur d'acheter groupé au niveau national, parce qu'il ne faut pas oublier que nos agriculteurs en bio ont des difficultés aussi. Donc moi je suis pour le rapprochement effectivement de réseaux comme les nôtres. C'est pas facile parce que dans l'espace francilien par exemple il y a plein de choses qui se montent et c'est très difficile de se rencontrer déjà dans le fin fond de la Sud Seine-et-Marne par exemple. Donc moi je vais mettre en place en 2004 un restaurant qui va employer des gens précaires carité et qui sera et on va travailler avec des entreprises du commerce équitable et de la bio et sous forme de SIC, hein.
Donc vous annoncez la création d'une filière de bœuf équitable entre le nord de Paris et le sud de Paris. Bravo.
On va travailler ensemble.
Non, j'avais cru que oui.
Bonjour. Je pique un peu la parole à mon ami parce que c'est pas moi qui voulais poser une question. Mais moi, bon, déjà, j'aimerais bien si on peut un peu différencier le commerce équitable du commerce solidaire. Je pense que c'est deux idées qui sont différentes. Et ce serait bien, enfin bon, moi, à mon sens, ça peut être pas trop les confondre. Alors, est-ce que quand on dit commerce équitable, je vais plutôt dire, dans mon sens, comment c'était, quoi. Moi, je pensais plus que commerce équitable, c'était justement, il y avait un peu le rapport avec les producteurs, sans passer par un certain nombre d'intermédiaires, etc. Déjà, premièrement, qui devait diminuer le coût, et deuxièmement, qui devait peut-être plus profiter aux producteurs, notamment en termes de... parce que s'ils pouvaient acheter du maïs à Bolivien, parce qu'apparemment, elle a parlé des Andes, pour lui acheter 50 centimes, elle vend 25 francs, c'est là que je pense qu'il faut agir, quoi. Si on doit faire quelque chose, ce serait plus dire, autant acheter un peu plus cher, l'acheter 1 franc, mais quelque part, on élimine les intermédiaires, donc on est toujours gagnant, quoi. Ce serait plus développer un peu cette idée-là, pas dire... moi, je vais plus ça comme ça, et puis apparemment, je vois que c'est plus des accords, un peu des échanges et tout. Et commerce équitable, c'est encore... commerce solidaire, pour moi, c'est encore une autre notion. Donc, est-ce qu'on peut avoir vraiment des éclaircies là-dessus? Il y en a qui connaissent mieux, parce que je crois que c'est un peu une des nouvelles, le commerce solidaire. Ou, enfin, je sais pas, quoi.
Donc, qu'est-ce qui peut répondre sur ce point, sur la clarification entre commerce solidaire et commerce équitable? Premier point. Le deuxième point, c'est le lien entre commerce équitable et suppression d'intermédiaires. Donc, la question du prix, la question de réduction des coûts de distribution.
Alors, je peux... apporter des éléments de réponse sur le commerce équitable, suppression des intermédiaires. Oui, on a souvent parlé du commerce équitable en disant on supprime les intermédiaires. Alors c'est vrai que mon travail, je pense que Artisans du Monde, c'est la même façon, on travaille directement avec les producteurs. C'est clair que quand on voyage, quand on se rencontre, on rencontre le producteur directement, on sait son nom, on sait son groupe, on sait où il habite, comment il travaille. Quand on parle de prix, c'est avec le producteur directement qu'on calcule le prix. Sur les capacités de production, sur l'évolution des produits, sur tout ça, on travaille directement avec le producteur. D'accord. Sauf que on a un des critères de commerce équitable, c'est de travailler avec des personnes en grande précarité. Donc ça veut dire quoi? C'est des mots, certains disent en grande difficulté, les plus défavorisés, etc. Mais nous, c'est vrai qu'on préfère en grande précarité. Mais ça veut dire quoi concrètement? Quand je pense à Marie et Aline qui sont au Burkina, qui font du beurre de karité, elles habitent à 50 km de la première ville, elles ont un vélo, elles ne savent ni lire ni écrire. C'est difficile de leur demander d'exporter directement les produits. Donc, des intermédiaires, il y en a. Et le commerce est fait aussi de réseaux. Alors, on ne parle pas d'intermédiaires, nous, on préfère parler de filières. Alors, c'est vrai qu'au Burkina, on a, et comme dans chacun des pays, on a une personne qui fait le lien, ou une structure, qui fait le lien entre le producteur et nous. En Colombie ou au Brésil, on travaille avec des producteurs qui habitent à 600 km de la première ville importante, d'où peut décoller un avion. Bon, s'il n'y a pas quelqu'un qui fait un lien entre eux et nous, qui est capable de recevoir notre coup de fil ou notre fax en disant je veux 500 kilos de beurre de karité ou 5000 poteries ou 200 colliers, s'il n'y a pas quelqu'un qui reçoit ce fax, il n'y aura jamais de communication et de commerce. Donc il y a quelqu'un, et c'est normal que cette personne qui fait ce travail soit rémunérée. Et après, ben, on n'a pas trouvé ni d'avion équitable, ni de bateau alternatif. Et sinon, ça se serait. Donc, effectivement, on travaille avec des compagnies aériennes avec lesquelles on n'a pas toujours envie de travailler. On travaille avec des compagnies maritimes sur lesquelles on n'a aucun contrôle sur les conditions de vie, de travail, de salaire des marins à bord. Mais tout ça, ça fait partie des faiblesses de notre système et de la filière sur laquelle on travaille. Par contre, c'est pour ça qu'en DIN, on parle plus de processus. Le commerce équitable est une démarche, c'est un processus, c'est pas une vérité en soi absolue. Alors, on limite au maximum, effectivement, j'allais dire les parasites, les intermédiaires parasites. Je veux dire, quand j'envoie de l'argent à un producteur, ben, je suis obligée de passer par ma banque et ma banque se sucre dessus. Et la banque du destinataire se sucre sur le producteur. Donc, ça y est toujours. Donc, c'est vrai qu'il y a des... On limite le maximum d'échelons de marge, mais il reste des étapes et c'est nécessaire pour vivre. Donc, commerce équitable aussi, pour moi, c'est plus une répartition équitable des marges entre les principaux acteurs. Mais il y a toujours les parasites dont on ne peut pas aujourd'hui se défaire. Et c'est en devenir, c'est une construction, c'est pas la vérité absolue, quoi. Par contre, commerce solitaire, j'avoue que je passe le micro.
Oui, sur les commerces solidaires, oui, vas-y.
Bonjour, Sophie Richard. Moi, je voulais rebondir aussi sur la question de la diffusion, parce que c'est vrai, quand on parle de commerce équitable, il y a la production équitable, mais ça me paraît normal qu'il y ait aussi une diffusion équitable. Commerce équitable, on en parle beaucoup aujourd'hui, c'est vrai que c'est dans l'air du temps, et on se rend compte qu'au niveau de la diffusion, il y a quand même un certain nombre de difficultés. Soit effectivement il faut aller dans une boutique Artisan du Monde, soit alors on se retrouve devant la grande surface, on n'a pas forcément envie de rentrer dans ce schéma-là. Comment peut-il y avoir une diffusion équitable, c'est-à-dire effectivement dans une vraie démarche d'entreprise économique, comme on parlait tout à l'heure, où il y ait un retour suffisant sur le plan économique de l'entreprise ou de la boutique qui va diffuser sans subvention, sans aide particulière et sans bénévolat non plus. Enfin, est-ce que c'est possible d'envisager ce type de diffusion ? Ce qui me paraît urgent, parce que c'est vraiment, il y a une vraie demande à l'heure actuelle.
Alors, il y a quand même quelque chose qui me semble important. Je crois qu'il ne faut pas opposer la démarche bénévole-salarié. Parce que déjà, de toute façon, si vous prenez l'épicier du coin, ben, il ne tournerait pas si sa famille ne s'y mettait pas. Et donc sa famille, elle fait du bénévolat, même si après, il y a des rétributions familiales, il y a toute la vie sociale. Et là, on ne peut pas non plus opposer bénévolat-salariat, parce que l'économie solidaire, c'est justement créer du lien social. Donc ensuite, la question, c'est de voir comment le projet peut quand même être rentable économiquement. J'ai l'impression qu'il y a une image d'Épinal d'Artisans du Monde qui correspond aussi à une réalité, il ne faut pas se leurrer non plus, mais dans Artisans du Monde, il y a quand même, on a 5 groupes qui sont à SARL avec des salariés. Sur le réseau Artisans du Monde, actuellement sur les 130 associations locales, il y a environ 40 qui ont un salarié. Je veux dire, ça commence à venir aussi, même au niveau d'un réseau artisan du monde, qui au départ, c'est vrai, est une force militante impliquée, qui fait ça en dehors de son boulot, qui fait ça parce qu'il est à la retraite, etc. Mais donc, moi je suis pas à la retraite. Donc voilà, donc je crois qu'il faut faire attention à ne pas opposer les deux. Alors après, on tombe sur la question du petit commerce. Enfin, je veux dire, monter un petit commerce, c'est pas évident. Il faut des capitaux. Comme expliquait très bien Véronique, de toute façon, ça veut dire aussi, même en tant que petit commerce, on paye à 30 jours son fournisseur, et non pas à 90 jours comme dans le commerce traditionnel, enfin on essaye du moins de le faire, donc ça veut dire qu'il faut un capital social plus important que l'épicerie du coin. Donc on a beaucoup plus de besoins, et c'est ça qui rend difficile cette percée, la distribution. Alors après, il y a quand même des initiatives sympas qui naissent. Bon, il y a ce qui est fait à Stein, et je pense qu'il faudra revenir sur l'exemple. Moi, je vais vous raconter une autre histoire. C'est dans la Nièvre. Il y a un groupe artisan du monde qui a créé ce qu'ils ont appelé un réseau couleur café. C'est-à-dire qu'ils ont une boutique à Nevers, et ils ont été voir un boucher dans un village d'à côté, une épicerie dans un village à 30 km, etc. Et chacune, une vingtaine d'entre eux, ont accepté de prendre quelques produits du commerce équitable. Donc c'est aussi de permettre que le commerce équitable, ça soit une question de proximité. Et ça, c'est une idée qu'on défend très fort Artisans du Monde, que le commerce équitable, c'est un commerce de proximité qui passe par des liens sociaux.
D'accord, donc juste un point. Il existe donc trois façons de distribuer des produits du commerce équitable. Des boutiques qui ne font que ça, d'un côté, ou alors la grande surface, où on va trouver des produits Max Avelard. Et puis entre les deux, donc des boutiques, enfin des commerçants de proximité, donc des petites surfaces, qui, sur une partie de leurs produits, diffusent des produits du commerce équitable. Hein. C'est bien ça, d'accord.
Oui, c'est les trois positionnements principaux. Alors, en termes, pour répondre ou rebondir sur votre question sur les moyens de distribution, je crois que là, on touche réellement les enjeux de société. Quelle société on veut et quelle société on construit. Alors cette construction de notre société, ça n'appartient ni aux acteurs déclarés de commerce équitable, ni à quiconque en particulier. C'est un enjeu de la société civile. Donc comment chacun se positionne? Les citoyens, les associations, les syndicats et les pouvoirs publics et les entreprises. Mais comment effectivement on peut imaginer une société, un centre-ville, autrement qu'avec des rideaux fermés parce que un grand supermarché vient de s'installer à côté, avec une galerie de marchandes et un transfert de centre-ville à l'extérieur de la ville. Et ça, c'est un enjeu politique, effectivement. Mais là, on n'a pas... C'est ni Artisans du Monde, ni Andy, ni personne, ni quiconque. C'est tous ensemble qu'on doit construire quelque chose. Et tous ensemble qu'on doit interroger aussi les pouvoirs politiques sur leur ligne, sur leurs priorités ou leur positionnement, leur ligne d'investissement, les choix d'investissement financier qui font des fonds publics. C'est ça qui est important. Mais là, il faut qu'on avance tous ensemble et un petit peu plus quand même.
Pour aller encore peut-être plus loin que toi, là on est en train d'avoir un rapport entre le commerce équitable et l'individu acheteur, hein, la personne. Mais il y a des forces d'achat dans ce pays qui sont considérables, et puisqu'on est ici sur la question du développement local et de l'économie solidaire, il y a notamment tout l'acheteur public, l'État, les collectivités territoriales, bien entendu, les collectivités locales, mais aussi le monde de l'économie sociale, la mutualité, les grands mouvements coopératifs, la coopération, même agricole, on pourrait aller l'interroger. Mais il y a également le monde syndical, les comités d'entreprise. Donc, il y a là des forces... non seulement de relais, des vecteurs de développement du commerce équitable, mais pas seulement sur le plan politique, idéologique, conceptuel, mais trivialement sur le marché. Hein, l'acheteur public, c'est une des grandes forces d'achat. Hein, c'est une grande partie du PIB. Je crois que l'acheteur public, c'est, j'ai lu ça... 16%. Bon, donc, alors on attend effectivement que les représentants des citoyens, fassent preuve d'une démarche de commerce équitable dans leur politique d'achat. Je crois que on avance à petits pas, mais à trop petits pas par rapport aux enjeux. Parce que pendant qu'on avance à tout petits pas de ce côté-là, il y a une machine quand même infernale qui avance à travers des outils extraordinairement puissants que sont l'OMC et des outils comme l'accord général du commerce des services, et qui nous, non seulement ne nous permettent pas d'avancer, mais nous mettent en recul sur toute une série de choses. Je ne vous fais pas de dessin, chacun pense à ce qu'il veut ici, on pourra faire une grande liste. Toujours est-il que là, je crois qu'en tant que citoyen, il y a deux choses. Il y a ce qu'on peut faire en tant qu'individu, et la vertu première pour moi du commerce équitable, ça a été de réinterroger qu'est-ce que c'est que le commerce, qu'est-ce que je fais quand j'achète quelque chose, et ça a un petit peu avancé dans la population. Et que c'est pas neutre d'aller choisir le produit le moins cher sans regarder où il est fabriqué, les conditions dans lesquelles il est fabriqué, parce que même si on croit que sur le moment on a gagné, on est perdant, parce que c'est cette logique-là qui conduit aux délocalisations, à la fabrication de toute une série de produits dans les pays du Sud, et non pas pour le bien-être des peuples, mais pour le bien-être d'un certain nombre de spéculateurs. Deuxièmement, la question de la valeur, et notamment dans le commerce équitable, ce qui est intéressant, c'est que ça interroge aussi la valeur du produit. C'est quoi la valeur du produit? On touche beaucoup l'alimentaire. Or, la valeur du produit aujourd'hui, ce fameux juste prix, ou ce prix du travail, ce prix de la production, il est complètement dézingué par la spéculation et par le jeu de la bourse permanent qui dit que à l'instant T, le café, ça vaut tant, et à T1, ça vaut tant, et à T3, ça vaut autre chose. Est-ce que les conditions de vie et de production, elles ont changé pendant ces 5 minutes? Ce matin, nous expliquait, non, c'était Henri tout à l'heure qui nous expliquait le nombre d'échanges monétaires qu'il y a par jour, qui se comptent en milliards de dollars. C'est complètement hallucinant, ça correspond à rien. C'est de l'économie virtuelle, c'est de la finance virtuelle. Or, le geste économique de la production, auquel se rattache notamment un prix pour pouvoir survivre, eh bien, il est complètement falsifié. Et l'affaire du commerce équitable, ça a le mérite de poser ça. Donc, ça réinterroge sur l'affaire du commerce. Et puis, dernier point, je crois que là, pour être l'avocate du diable aussi, je crois qu'il y a dans le monde du commerce équitable en France des brouillages tels que c'est compliqué. Que c'est compliqué pour le citoyen lambda, mais c'est aussi compliqué pour le monde syndical, pour le monde des comités d'entreprise, pour le monde des collectivités territoriales. Et là, je voudrais vraiment mettre les pieds dans le plat, parce que je viens de lire aujourd'hui Politis, mon journal préféré, et où je vois que Max Avelar passe un deal avec McDonald's Suisse pour aller vendre du café équitable, et où il y a le petit label de Max Avelar qui est à coquiner à McDonald's. Et ça, dans le brouillage total, dans la non-signification que ça amène, c'est-à-dire dans la perturbation totale, c'est-à-dire d'annexer comme ça ce qui commençait à être perçu comme une autre forme de commerce, une autre forme d'échange, une autre forme de production, une autre forme de relation entre celui qui achète et celui qui produit, à coquiner à McDonald's qui représente vraiment la multinationale la plus pourrie qui soit, avec de la viande, enfin avec tout un tas de produits qui représentent les choses les plus abjectes et la normalisation la plus totale au niveau mondial, je pense que c'est extrêmement dangereux. Et je crois que justement ce qui fera la différence dans les années à venir, enfin je l'espère, c'est la montée en puissance de structures qui font le commerce équitable, effectivement comme Andine ou d'autres, et aussi de l'engagement politique là, des collectivités territoriales qui non seulement feront le développement du commerce équitable, mais aussi le diront, l'afficheront. Et juste un petit exemple, durant la dernière mandature du gouvernement, le gouvernement dit Jospin, eh bien, le ministère des Affaires étrangères achetait déjà du commerce équitable et le diffusait dans sa cantine, etc. Donc, ça avait du café équitable, sauf que c'était pas marqué.
Oui, moi je voudrais revenir un petit peu sur la question pour les filières du commerce équitable, et c'est un des arguments de Max Avelar pour aller vers McDonald's, hein, Aubervilliers.
Est-ce que tout le monde sait bien ce que c'est que Max Avelar? Parce qu'on parle entre initiés, est-ce que quelqu'un veut faire un point sur l'association donc, qui s'appelle Max Avelar? Qui?
Est-ce qu'il y a quelqu'un de Max Avelar là? Non, parce que...
Tu peux le faire
Oui, en engageant que moi, ça n'est pas une marque, contrairement à ce que tout le monde croit. C'est une marque collective, mais c'est une marque qui donne une étiquette, enfin un label privé. Hein, oui, mais beaucoup de gens croient qu'ils achètent une marque, alors qu'en réalité, si vous prenez Malongo, hein, vous avez le label Max Avelar qui s'ajoute à la marque Malongo. Mais Malongo vaut du café qui n'est pas équitable. Les gens croient acheter une marque parmi d'autres, hein, c'est pas la même chose. Donc c'est un label privé qui est d'origine hollandaise, hein, et qui a eu le mérite de, je crois, faire connaître les démarches de commerce équitable et qui fonctionne globalement sur 9 filières à partir de critères et de modes de contrôle qui sont à peu près les nôtres, hein. Pardon ?
Actuellement, ce ne sont que des produits alimentaires, c'est ça ?
Voilà, que des produits chocolat, alimentaires, le café, le chocolat, le thé, le riz, le sucre, je ne sais plus... Bon. Alors, ils vendent par eux, ils disent, nous avons des tas de producteurs en attente, que nous ne pouvons pas, parce que les procédures, l'engagement durable demande une diffusion, une distribution... Hein, nous ne pouvons pas donner satisfaction, il faut élargir les cercles de distribution. Donc ils se justifient pour aller dans les grandes surfaces ou à McDo, hein, j'essaie de me faire leur porte-parole, hein, vous remarquerez, hein.
Francis ne le dit pas, mais bon, il n'est pas là par hasard.
Je suis pas tout à fait d'accord, donc je fais un effort surhumain, hein, mais je crois que c'est défendable comme point de vue. Ils disent, bon, il faut multiplier les points de vente pour assurer, parce que là, pour les producteurs, ce qui compte, c'est quand même de vendre leurs produits. Hein. D'où un petit peu la démarche que nous avons eue à Stein, j'y reviens un petit peu, c'est que, effectivement, pour pouvoir acheter du commerce équitable dans notre ville, il fallait aller à Carrefour. Et s'il faut en plus McDo et Carrefour, on a ça. Mais d'autres points de distribution du commerce équitable, on n'en a pas. D'où l'idée de créer le commerce, la boutique, s'il pouvait y en avoir deux, trois. Et si on pouvait prendre la démarche que vous m'avez indiqué là, de la Nièvre, on en a parlé avec des petits commerçants, pour qu'ils soient eux-mêmes débouchés, y compris au moment de la période des cadeaux, quand on fait un stand d'andine, au fond, est-ce que c'est... Il y a quelques boutiques qui vendent des cadeaux dans la ville et qui pourraient, au fond, être intéressées à le faire aussi. Je crois que c'est ce type d'approche qu'il nous faut faire et qui résoudront peut-être d'une certaine manière l'enjeu autour de Max Havelaar. Alors, ce qui nous gêne dans Max Havelaar, c'est qu'en procédant comme ça, il donne une caution à des organismes qui n'ont rien d'éthique pour l'essentiel de leur pratique et notamment sur la manière dont ils réinvestissent les produits financiers qu'ils réalisent. Notamment McDo et notamment Carrefour, enfin ou les autres. Et donc c'est ça qui nous paraît fondamentalement contradictoire avec la démarche et qui gêne. Mais leur argument, faut assurer des débouchés pour les producteurs, n'est pas un argument qu'on peut jeter au panier comme ça, parce que nous ne sommes peut-être pas encore capables aujourd'hui d'avoir développé les réseaux. Alors je voulais juste revenir sur un point. Moi je suis d'accord, c'est bénévolat plus professionnel, c'est le mélange des deux qui fait notre originalité. Et dans nombre de cas, c'est comme ça, même dans une entreprise libérale, il y a du... Mais je préfère le mot militant, tout simplement, au mot bénévole, parce que cette forme d'engagement, ce surplus que l'on fait de temps dans ces démarches-là, c'est sur un autre projet de développement de la société. Donc j'aime mieux le mot militant, mais ça revient au même.
C'est juste pour ajouter quelque chose par rapport à la démarche de la grande distribution, entre autres. McDo, j'étais pas encore au courant. Mais j'y vois aussi un autre danger. C'est qu'en absorbant cette alternative qui est le commerce équitable, on va tuer l'alternative. C'est la volonté. La grande distribution veut tout capter. Donc elle va capter le commerce équitable. Elle va renforcer des processus ou des procédés qui sont absolument inadmissibles pour tout le reste, que ce soit pour les paysans, pour leurs salariés, pour tout. Et ils vont avoir une petite filière alibi qui va leur permettre de faire de la pub, qui sera le commerce équitable. On faudra pouvoir se le payer parce que ça sera sûrement beaucoup plus cher que le reste, comme la bio. Mais ça sera extrêmement rentable et surtout, ils vont tuer une concurrence. Ils vont renforcer le système en tuant cette alternative qui commence à naître. Alors, je ne comprends pas du tout la stratégie de Max Havelaar. Je comprends le problème des Suisse. Oui, mais enfin, en France aussi, on en... Oui. Ah, d'accord. Enfin... Quoi qu'il en soit, à court terme, ça peut paraître séduisant parce que c'est des débouchés, mais à moyen long terme, c'est foutu, c'est se faire bouffer. Mais vraiment, et c'est ce qu'attendait la grande distribution à sauter dessus, c'est sûr.
Ça me fait le lien justement entre commerce équitable et commerce éthique, parce qu'effectivement, si des entreprises, je pense à Monoprix, qui fait beaucoup de communication, il faut dire qu'ils ont un public pour, avec une gamme assez importante de produits du commerce équitable, mais ne fait pas plus par rapport à ses achats classiques, ils se retrouvent dans le carnet de notes que publie chaque année maintenant le collectif de l'éthique sur l'étiquette, avec une note de 2 sur 20, c'est-à-dire... qu'ils ne font quasiment aucun effort et qu'ils ont des pratiques qui ne sont absolument pas différentes de celles de Leclerc ou de celles d'Intermarché et qu'il y a vraiment une complémentarité. Vendre du commerce équitable dans la grande distribution, pourquoi pas, à condition que ça ne devienne pas un alibi, mais que ce soit plutôt une première étape pour sensibiliser des acheteurs et sensibiliser tous ceux qui sont responsables des politiques d'achat, mais il faut aller plus loin. Il faut vraiment que les pratiques d'achat globales concernant les vêtements, les chaussures, les jouets, l'électroménager, tout ce qui peut être des filières à risque, soient transformées. Donc il faut bien voir ça comme une étape. L'autre point, c'est sur les achats publics, puisque je crois que c'est un des thèmes qu'on souhaitait aborder. Donc le collectif, comme d'ailleurs Artisans du Monde ou Max Havelaar, donc essaye justement de faire un travail de sensibilisation des collectivités territoriales. On l'a engagé il y a à peu près 3 ou 4 ans. On a lancé notamment une campagne intitulée « Achats publics, achats éthiques ». Et aujourd'hui, à peu près 240 collectivités territoriales, essentiellement des communes, ont adopté une motion dans laquelle elles s'engageaient en faveur d'achats publics éthiques. Ça veut dire à la fois, au moins dans les intentions, de travailler avec les fournisseurs pour obtenir plus de garanties, plus d'informations, et aussi d'appuyer des actions de sensibilisation des citoyens, des collectivités concernées. Donc il y a l'aspect éducatif et il y a l'aspect pratique d'achat. Alors aujourd'hui, on est en train, et d'ailleurs Florence, qui est aussi élue, travaille avec nous sur cette question-là, d'essayer de structurer un réseau de collectivités On pense créer une association d'ici la fin de l'année avec Cités Unies France, qui est un regroupement de collectivités territoriales menant des actions de coopération internationale pour justement développer des outils, des méthodologies, expérimenter des actions test avec des fournisseurs classiques, inciter les collectivités à acheter des produits du commerce équitable, les deux volets sont tout à fait compatibles, et fournir des éléments sur des modalités d'appui spécifiques en termes éducatifs. Il y a par exemple des contrats éducatifs locaux avec des écoles, avec des associations locales qui peuvent aider à sensibiliser des enfants. Donc il y a tout un travail qui est en route. Et donc, à la fin du mois, il y a les Assises nationales du développement durable à Lille, et un guide sera présenté par ce petit groupe de travail, réalisé avec le soutien de la région Nord-Pas-de-Calais et de la communauté urbaine de Dunkerque.
Oui, on avait effectivement prévu de passer une partie de temps d'atelier sur la responsabilité ou l'importance de l'achat public et des collectivités territoriales en général sur le commerce équitable. Alors, qu'est-ce qui veut intervenir là-dessus parmi nos intervenants?
Oui, je suis élu local, hein, on a exploré avec le réseau des territoires pour l'économie solidaire un petit peu comment, à ma connaissance, on est au début, au balbutiement d'obtenir des véritables politiques d'achat éthiques ou de commerce équitable, ce qui n'est pas la même chose. On intègre, grâce à l'article 14 du Code des marchés, tant que ce Code des marchés existe d'ailleurs, des clauses dans les cahiers des charges qui sont de nature environnement, respect du droit du travail, des normes internationales du travail ou des normes environnementales faisant en sorte, par exemple, sur le bois tropical qu'on le brade pas, etc. Donc on inscrit ça dans les procédures. Moi, je l'ai fait voter en plusieurs conseils municipaux sur différentes catégories de produits, mais le système actuellement stipule simplement que le fournisseur s'engage à respecter ces normes. Charge à je ne sais qui de vérifier ce respect effectif. Et c'est en tout cas très difficile pour une commune d'avoir les moyens de vérifier si au détail d'un produit dans un catalogue qui est souvent extrêmement large, hein, que ce soit les fournitures scolaires, mais enfin moi c'est mon domaine, enfin, ou même parfois si les choses sont véritablement respectées, et je pense que le travail que vous faites devrait, et je crois que c'est dans ce sens-là que vous avancez, aider à ce que ça, on avance dans ce sens-là. Mais je me rends compte que les élus n'avancent sur ces questions-là que s'il y a des citoyens qui les interpellent. Hein. Et à ce moment-là, on fait travailler les services sur ces questions. Or, les services ont beaucoup de mal, parce que c'est finalement leur demander de fonctionner à l'envers de tout ce qu'on leur a appris à faire. Hein, c'est plus le mieux-disant financier, c'est plus le fournisseur le plus simple dans sa présentation. Ça veut dire entrer dans la qualité des produits, dans le sens, enfin dans tout ce qu'on vient de décrire, c'est complexe nous-mêmes. Donc s'il n'y a pas les citoyens qui interpellent les élus qui sont dans la demande pour faire en sorte que la commande soit passée aux techniciens qui eux-mêmes n'ont pas beaucoup d'outils, on avance très très lentement, et je connais assez peu d'exemples, sauf erreur, hein, de communes qui aient véritablement réussi à avoir une politique, ça commence, hein, mais une politique d'achat éthique. Je crois qu'on est tous en recherche, et si on pouvait se mettre en réseau au niveau des collectivités territoriales, je crois que ce serait tout à fait important. Mais j'ai signé, puisque Equi est partenaire de la ville d'Aubervilliers qui a signé la charte. On s'est rendu compte qu'Aubervilliers a signé la charte, mais Stein ne l'a pas signée. Mais nous, dans notre convention territoriale pour l'économie solidaire, nous sommes engagés sur cette question-là. Et j'étais quand même embêté que la signature passe par Max Avelard, et à Stein, on ne signera pas. Parce qu'on signe pour Max Avelard, c'est un document Max Avelard. Eh oui, mais alors vous, il faut que je regarde, j'ai peut-être pas compris, mais la charte signée à Aubervilliers, c'était quasiment Max Avelard qui récupérait l'image du commerce équitable. Alors c'était assez caricatural, parce que on avait l'impression que le commerce équitable avait un label obligatoire pour qu'une collectivité s'y engage, ce qui est tout à fait discutable.
Bien, on voit bien à travers ces exemples toute la difficulté justement à essayer de transformer une partie de l'achat public en achat vers du commerce éthique ou du commerce équitable, mais on retrouve finalement des mécanismes de l'économie conventionnelle. Enfin, on retrouve le jeu des forces de marché, enfin, c'est ce que je veux dire. Justement par rapport aux transformations culturelles du côté de l'acheteur, hein, dont vous parliez, enfin, dans les collectivités territoriales, ça pourrait être quoi le levier justement pour se prémunir contre justement des comportements classiques? Est-ce que c'est une affaire de formation? Est-ce que la loi devrait évoluer?
Juste pour rectifier, donc effectivement, la charte Max Havelaar, c'est commerce équitable, chapeauté par Max Havelaar, parce qu'apparemment, il se croit un peu seul sur le marché. Alors que nous, notre démarche, c'est de constituer un réseau de villes éthiques, donc qui interpellent leurs fournisseurs et qui... Alors, il n'y aura pas un label dans un premier temps, parce que c'est pas possible d'avoir un label éthique, mais c'est surtout de sensibiliser les fournisseurs, d'essayer de les accompagner en disant, est-ce que vous pouvez interroger vous-même vos sous-traitants, vos fournisseurs, etc. Enfin, toute la filière d'approvisionnement. Donc, c'est une démarche plus, je dirais, pour l'instant, moins aboutie que l'équitable. Alors, au niveau des réussites, les villes qui franchissent le pas et qui le franchissent vraiment, c'est-à-dire qui ne font pas simplement un vote de résolution ou de motion et qui s'arrêtent après, ce sont les villes où il y a soit un élu dans la majorité, je précise, qui est vraiment impliqué dans cette démarche, qui s'intéresse à ça, ou des employés municipaux qui sont intéressés par l'éthique et l'équitable. Le citoyen, pour l'instant, il est plutôt lourd à bouger que... Enfin, moi, j'ai plutôt du mal quant aux élus qui ne sont pas... En plus, c'est souvent un domaine qui est très, très mal connu, finalement. C'est-à-dire nous, on a l'impression que toutes ces notions sont très très bien acquises, très bien comprises. Moi, je l'ai fait voter, la résolution. Moi, je suis dans l'opposition. Alors, j'ai quand même réussi à faire voter la résolution. Mais après, le passage à l'acte est beaucoup plus dur. Et alors, la réaction, c'est une réaction de boycott. C'est de dire, la responsable des achats scolaires m'a dit, cette année, aucun cartable venant de Chine. Et j'ai dit, d'accord, mais c'est pas du tout ça la démarche. Il faut qu'on se voit, il faut que je vous réexplique et qu'on voit avec les acheteurs. Mais non, la réunion, je l'attends, ça fait 6 mois. J'ai toujours pas eu de réunion parce que c'est un travail. Donc si les gens ne sont pas déjà motivés et intéressés, ça mettra du temps.
Est-ce qu'il y a des programmes qui sont faits soit par la plateforme du commerce équitable, soit par des réseaux du commerce équitable, de sensibilisation des élus ou des fonctionnaires des collectivités territoriales? Qui est-ce qui pourrait parler de ça? Pas moi, en tout cas.
Il y a un produit, c'est relativement facile, mais pour ensuite engager un travail avec des fournisseurs, il y a beaucoup d'interrogations. Donc la première des questions qui était posée, c'est déjà la sécurité juridique. Est-ce qu'on peut intégrer des clauses d'ordre social dans les appels d'offres? Alors il y a eu une première réforme en mars 2001 qui était à peu près claire là-dessus, explicitement permettait d'intégrer ces critères. Il y en a une nouvelle aujourd'hui, alors je dirais qui semble pas très défavorable pour nous, puisqu'elle élève tellement les seuils qu'a priori tout se passera en dehors des marchés publics, enfin en dehors d'appels d'offres. Ça c'est au niveau français, mais au niveau européen il y a une directive qui est en cours de discussion, je rentre pas trop dans les détails, mais qui menace d'être relativement restrictive, puisqu'elle n'autoriserait que les marchés pour les offres les plus économiquement avantageuses pour les parties contractantes. Alors j'explique, économiquement avantageuses, pourquoi pas, si c'est pour la société, on peut intégrer un certain nombre d'éléments comme l'environnement et le social qui peuvent rentrer dans l'économiquement avantageux. Si c'est uniquement pour les parties contractantes, ça veut dire en gros le meilleur rapport qualité-prix et qualité au plan matériel. Donc là, il y a une mobilisation actuelle, c'est le Conseil des ministres a validé cet aspect très très restrictif. Le Parlement européen, lui, souhaiterait qu'on intègre d'autres critères. Donc là, il y a un lobby européen qui est mené par des associations, des syndicats. Les acteurs du commerce équitable, d'ailleurs, sont très actifs là-dessus pour qu'on revienne à la version antérieure et qu'on puisse intégrer des éléments. Voilà, donc il y a le problème de sécurité juridique. Et ensuite, il y a un besoin de formation, d'information. Donc on avait fait l'an passé avec Cités Unies France une journée d'information qui visiblement avait intéressé pas mal d'élus. Et de plus en plus, dernièrement, il y a eu les assises régionales du commerce équitable Rhône-Alpes, où un temps a été consacré à ces questions-là. Donc je pense qu'il y a de plus en plus de demandes, de plus en plus de difficultés à y répondre tant il y a de demandes. Donc il faut structurer un réseau, avoir des moyens, faire de l'information, et fournir des outils.
Alors il y a donc un besoin fort. Donc de votre point de vue, qui est-ce qui pourrait porter, est-ce qu'il faut que les entreprises du commerce équitable, les associations du commerce équitable se regroupent pour organiser la réponse à ce besoin, puisque s'il y a une sensibilité qui est en train de naître justement au niveau de l'achat public ou de la sensibilité donc du monde des collectivités locales au commerce équitable, au commerce éthique, comment du côté des producteurs et des militants du commerce équitable, comment finalement ça peut s'organiser avec des programmes de formation, comment ça pourrait se faire? Très concrètement, très simplement.
Je vais peut-être pas répondre à ta question, mais faut pas désespérer des citoyens. Je veux dire que je crois que la démocratie participative, c'est-à-dire une autre forme de vie politique, dont le commerce équitable est un des éléments, parce que des militants qui vendent des produits différents, qui interpellent le système économique mondial, ça finit par peser sur les élus locaux. Et à ce moment-là, les élus locaux sont amenés à s'interroger sur leurs achats. Je pense que ce mécanisme-là, et on peut demander à la collectivité territoriale de jouer un rôle d'information dans un premier temps, de mobilisation, d'appui, de mise à disposition de locaux, de tout ce qu'on veut. Ça, je crois que ça se fait, ça commence. Mais sur la réforme du code des marchés qui est en cours, elle va supprimer, bon, parce qu'on va relever les seuils, et ça dispensera des appels d'offres, ça dispensera aussi de la présence de la direction de la concurrence, hein, dans les contractualisations. Enfin, il y a des choses là qui se préparent, c'est-à-dire qu'on supprime la transparence. Et à ce moment-là, la possibilité pour le citoyen de voir quel contrat la collectivité fixe va disparaître. Et j'ai bien l'impression, on avait mis du temps à ce qu'on ait un article qui était tout à fait insatisfaisant, qui était l'article 14, mais qui nous autorisait à mettre des éléments éthiques, finalement, dans les cahiers des charges. Ça va être pulvérisé. Et dans un premier temps, on a l'impression qu'on va plus facilement pouvoir faire acheter 20 ou 30 paquets de café. Et puis alors, si l'Europe revient avec le moins 10 ans, donc quand on dit rapport qualité-prix, ce sera le prix. On va aller vers la standardisation, hein, la plus grande possible, et le renforcement des plus gros, des grands lots, hein, des grossistes. Donc ça va être un encouragement considérable à des grands groupes européens qui feront des propositions qui forcément sera en termes de rapport qualité-prix sur la quantité moi je me bats en ce moment avec les enseignants de ma ville pour leur dire arrêtez de demander 25 sortes de critériums de papier qui avec des mines qui cassent, parce qu'en faisant ça vous nous obligez à aller vers des grossistes les plus gros, hein, ceux qui font n'importe quel prix alors qu'il faudrait mieux qu'on s'entende sur deux ou trois crayons noirs qui pourraient peut-être venir de producteurs, etc. Et ça, c'est ça. Alors, il faut créer des dynamiques citoyennes. Moi, je crois qu'il n'y a pas d'autre salut là-dessus. C'est-à-dire, faut faire de la politique dans l'économie. Hein, et quand je dis de la politique, au sens large du terme, hein, ou avoir un engagement citoyen. Alors, on peut l'avoir par l'exercice du droit de vote. Au fond, il faut interpeller nos élus sur ce qu'ils font. Hein, je crois que, et même quand on est élu soi-même, il faut interpeller ses collègues, hein, parce que c'est pas facile, les obstacles sont nombreux.
Donc si je comprends bien, il faut avoir des élus et des fonctionnaires motivés et des citoyens motivés. Ouais. Sinon ça marche pas.
Il faut être citoyen partout.
Voilà, il faut être citoyen partout. Qu'est-ce qui va intervenir?
Je voulais savoir aussi par rapport à la sensibilisation auprès donc, du jeune public, donc dans les écoles, tout ça. Et aussi, donc, il existe aussi donc, des choses menées, donc, économie solidaire, type des marchés de Noël solidaires. Donc, ça pourrait être une solution pour inciter donc, le citoyen donc, à acheter de manière éthique et aussi donc, à le sensibiliser.
Qu'est-ce qui veut apporter des éléments là-dessus ? J'ai compris que vous interveniez sur la façon justement d'éduquer les citoyens ou dans les écoles sur ces questions de commerce équitable et de commerce éthique, c'est ça ? Donc la façon de faire
Au niveau d'Artisans du Monde, depuis plusieurs années, on a déjà un produit qui s'appelle le petit déjeuner solidaire. Donc en fait, on va dans des écoles et on retrace l'histoire d'une filière, qu'est-ce qu'il y a derrière la tasse de cacao qu'on boit le matin au petit déjeuner. Ça, c'est une chose. L'autre chose sur laquelle on va s'engager dans les 3 ans à venir, c'est une sensibilisation d'un public de jeunes adultes. Parce qu'il nous semble important aussi de sensibiliser des jeunes qui se posent des questions sur la mondialisation et avec lesquels on peut entamer un débat et les sensibiliser aux questions de l'économie solidaire. Donc voilà les expériences que l'on mène.
Il y a une chose extrêmement concrète, c'est les associations de parents d'élèves qui sont quand même assez largement implantées dans les écoles publiques et qui sont largement sollicitées tous les ans pour aller donner des sous à la coopérative scolaire. Et la coopérative scolaire, hélas, n'a souvent de coopérative que le nom et pas tout à fait le fonctionnement. Alors j'ai vu cette année qu'il y avait l'organisation, la coordination des coopératives scolaires qui s'appelle l'OCCE, eh bien, qui enfin va organiser une campagne de sensibilisation dans toutes les écoles à la rentrée pour rappeler qu'est-ce que c'est que la coopération, qu'est-ce que c'est que les coopératives scolaires, quel est le lien avec l'ensemble du monde de la coopération. Je pense que ça pourrait être, peut-être c'est pas encore trop tard maintenant, pour les acteurs du commerce équitable d'aller solliciter l'OCCE en disant, mais à cette occasion-là, eh bien, pourquoi ne pas intégrer la dimension du commerce équitable, puisque finalement, qu'est-ce que c'est que le commerce équitable, si ce n'est une forme de coopération équitable entre les producteurs et des gens qui consomment, qui achètent, je pense que les coopératives scolaires pourraient avoir, elles aussi, une démarche d'achat équitable, et elles pourraient en plus induire ça dans les politiques menées par les enseignants.
Oui. Notre atelier va bientôt se terminer. Je voulais juste faire un point sur la question que vient d'évoquer Michel De Seyne, qui est le fait qu'on parle davantage du commerce équitable dans les écoles. Enfin, pour avoir fait le test moi-même dans ma ville, c'est considéré comme un message politique. Je ne parle pas du commerce équitable en tant qu'enseignant, parce que d'une part, je ne vais pas recevoir d'injonctions pédagogiques par les parents sur ce que je fais et ce que je ne fais pas dans ma classe, premier point général. Deuxième point, je ne fais pas de politique dans ma classe. Donc on a, effectivement, moi je suis d'accord, l'enfant est le meilleur prescripteur dans sa famille et ailleurs pour justement que les choses changent, mais on a un véritable blocage sur le fonctionnement actuel du monde de l'enseignement. C'est un point de vue personnel que je me permets de donner à titre d'animateur.
Quand on voit des banques faire des jeux boursiers dans certains collèges, quand on voit des marques distribuer ces enseignants-là, ils s'en usaient en abus, il y a Emmental, il y a tout ça, enfin, il y a des fanions, je travaille avec les branches professionnelles dans l'éducation nationale, toutes les branches produisent, et c'est pas forcément mauvais, mais des documents sur leur filière, sur leur production, que ce soit le nucléaire, enfin tout ce qu'on veut, les enseignants sont remplis dans leur classe sans en avoir conscience de documents qui sont de la politique, bien plus sûrement que ce que font les petits déjeuners de... C'est, moi, nous, on l'a fait aussi, c'est remarquable. Et franchement, c'est une réflexion sur les produits. Les enseignants, nous, l'ont très bien accepté. C'est eux qui nous l'ont demandé. Hein, et on a repris d'ailleurs votre...
Enfin, c'est vrai ce que tu soulignes par rapport au fait c'est politique, mais bon, d'un autre côté, là par exemple, le Conseil régional Île-de-France a fait un partenariat avec Artisans du Monde pour faire connaître le commerce équitable dans les lycées. Donc ça a été dur à passer au niveau de certains élus, de certains partis, mais c'est quand même passé. Donc je crois qu'il y a quand même de l'espoir pour qu'on voit qu'on a besoin d'une autre société, et effectivement on a tout aussi le droit d'aller parler dans les écoles, que, et même plus le droit que Kellogg's quand ils font leur petit déjeuner.
J'ai été beaucoup de pubs, hein, Kellogg's, McDo, Max Avelar. Donc si vous voulez bien, on va clore notre atelier en se remerciant mutuellement d'y avoir produit des choses, et puis merci et bonne fin de journée. Alors le rapporteur Véronique Lacombe va donc rapporter. Le rapporteur.
Il y a un très bon papier dans le collectif aujourd'hui. C'est vrai qu'il